Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Et voilà, on l'avait annoncé en sommaire de cette émission, on va parler du trafic et commerce des espèces protégées, à quel risque s'exposent les opérateurs économiques qui se livrent à ce trafic. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios notre invité Mapila Ngadjef, directeur-chef du département technique et scientifique à l'ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Monsieur Mapila Ngadjef, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons le numéro des contacts si vous avez des questions. Des préoccupations par rapport à ce sujet, vous pouvez appeler au 081-890-303-94. Vous pouvez aussi faire un SMS au 081-711-5001. Le commerce légal d'espèces protégées est interdit par la loi et ces espèces animales nécessitent que des mesures de protection soient prises à leur endroit. Ces animaux ne peuvent être abattus, commercialisés, naturalisés ou encore apprivoisés et doivent vivre dans les milieux naturels selon les prescrits de la loi sur la protection et la conservation de la nature. Malheureusement, il y a des personnes qui se livrent au trafic et commerce de ces espèces protégées. Alors, on va découvrir avec notre invité à quel risque s'exposent toutes ces personnes. Monsieur Mapila Ngadjef, on peut d'abord aider les auditeurs à comprendre qu'est-ce qu'on entend par une espèce protégée.
Merci, monsieur le journaliste. Une espèce protégée, c'est une espèce dont la législation, aussi bien nationale et internationale, interdit pratiquement l'exploitation sous toutes ses formes, soit les spécimens vivants, soit les produits ou sous-produits.
Alors, s'il faut parler par exemple des espèces animales, on peut avoir une idée des espèces animales qui sont protégées en RDC.
Je donne un exemple en ce qui concerne pour nous la République démocratique du Congo ou en Afrique centrale, il y a l'éléphant d'Afrique, c'est une espèce totalement protégée aussi bien par la loi nationale et aussi bien que par la législation internationale, notamment la convention de Washington. Il y a les gorilles aussi bien des plaines que des montagnes et l'okapi, les chimpanzés, les bonobos, les crocodiles, etc., etc.
Donc vous avez cité les éléphants d'Afrique, les gorilles de plaine et des montagnes, vous avez cité également Okapi, et aussi les bonobos et les chimpanzés. Mais voilà qu'il y a des personnes qui passent outre l'interdiction de protéger ces espèces. Ils sont vraiment dans le trafic et le commerce de ces espèces protégées, notamment ces animaux que vous venez de citer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le risque à quoi s'exposent ces personnes lorsqu'ils se livrent à ce trafic ou au commerce des espèces protégées?
Merci pour la question. Je crois que les risques se situent à divers niveaux. Au niveau d'abord de la biodiversité, c'est-à-dire la RDC possède une méga biodiversité, c'est-à-dire une richesse animale et végétale très prononcée au niveau de l'Afrique centrale. Et je me dis que l'impact du trafic, disons de crimes environnementaux, par rapport à la richesse biologique, elle a un impact direct sur la réduction des diversités des espèces. Or, nos aires protégées, c'est-à-dire 13% du territoire national qui est érigé en aire protégée, regorge une importante richesse biologique en termes de la faune et de la flore. Donc, le premier impact se situe en fait un appauvrissement ou une réduction de la biodiversité au niveau de nos aires protégées ex et in situ. Un autre aspect important de l'impact se situe maintenant au niveau même de l'économie. C'est-à-dire ces espèces animales, et vous parlez plus pratiquement des espèces animales, lorsque vous allisez à favoriser les trafics ou bien à être impliqué directement, ou que vous soyez par les trafics des espèces, vous réduisez, vous faites ce qu'on appelle la perte de capital. Je donne un exemple. La visite aux gorilles, elle se négocie pour le moment pour visiter les gorilles, par exemple au parc national de Virunga ou dans le parc de voisins, des pays voisins comme l'Ouganda. Il vaut jusqu'à, ça varie entre 450 à 750 dollars pour la visite par personne. Et que donc, lorsque vous faites le trafic de gorilles, vous privez en fait le pays de ce revenu touristique. Parce que, au lieu que vous trafiquez, au lieu que le pays exploite cette ressource d'une manière durable à travers le tourisme qui va générer entre 450 et 700 dollars par individu qui visite une famille de gorilles, vous prélevez le spécimen et vous le trafiquez, je ne sais pas à quel prix, et donc c'est une perte énorme au moment où ce même spécimen qui pouvait être gardé dans son milieu naturel et être visité par différents groupes de touristes, il pourrait générer plus d'argent, perte en tout cas de capital. Un autre risque, un autre impact, c'est en termes pratiquement de la manipulation, hein, de la manipulation de certains spécimens qui développent certaines zoonoses qui facilement se transmettent de l'homme, pardon, des animaux vers l'homme. Notamment, ça c'est plus particulièrement tous ces primates qui dans les laboratoires, ils jouent pratiquement des spécimens pour l'expérimentation des vaccins. Il y a certains virus qui, en fait, affectent aussi bien l'homme et les animaux, plus particulièrement les primates. Et notre impact, c'est quoi? C'est pratiquement au niveau maintenant local, au niveau micro-zone, c'est-à-dire vous favorisez le trafic, vous diminuez le potentiel en biodiversité, vous diminuez le capital, mais aussi vous diminuer le potentiel en termes d'emploi, d'opportunités d'emploi, parce que le tourisme, c'est un des leviers de développement socio-économique. Vous diminuez pratiquement ce potentiel en exportant ces spécimens.
Vous avez parlé également de l'impact sur la réduction de la biodiversité. Vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a aussi un impact au niveau de l'économie, parce que ça peut constituer le tourisme et constituer une source de revenus pour un pays. Mais alors, par rapport à ces individus, hein, eux-mêmes, ces opérateurs économiques qui se livrent à ce trafic et commerce d'espèces protégées, et qu'est-ce qu'ils peuvent courir comme risque si on arrive à mettre la main sur eux?
Un risque, c'est celui de perte justement de la marchandise, du produit. Donc, vous investissez dans les trafics de l'ivoire, qui est un produit de l'éléphant. Vous êtes, en tout cas, un effracteur, et que donc, lorsque les services spécialisés tombent sur vous, que ce soit les services de l'ICSN, les services des douanes, les services spécialisés en cette matière, au niveau des postes de sortie, où en fait nos services sont actifs, que ce soit l'ICSN, disons le service spécialisé de l'État congolais, on tombe sur vous. Si vous avez investi une bagatelle de 1 million de dollars dans les spécimens, et comme par exemple les perroquets gris, comme les bonobos, etc., en tout cas on saisit, la loi elle est dure, et la sanction elle est non seulement pas les poursuites judiciaires, mais aussi la confiscation de ces produits et sous-produits des espèces totalement protégées. Donc vous avez investi 1 million, non seulement pas vous allez encourir les pénalités par rapport à des condamnations légales, ça varie entre 3 ans et 5 ans de servitude pénale principale, mais aussi des amendes transactionnelles, mais également la confiscation, ce qu'on appelle le préjudice.
Voilà, on a déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Bernard qui nous appelle de Manono, au Katanga, Sophorien, qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Nous sommes en train de parler du trafic et comment des espèces protégées, à quel risque s'exposent ces opérateurs économiques. Nous avons avec nous dans ces studios Mapilanga Jeff, directeur chef du département technique et scientifique à l'ICCN. Vous êtes intéressé, le numéro d'appel, c'est le 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bernard nous appelle de Manono, dans la province du Katanga. Bernard, bonjour.
Bonjour à Radio Okapi et à tous les auditeurs de notre pays. C'est Bernard de Manono.
On vous écoute, Gérard. Bernard.
Moi, j'ai une petite question à poser à notre invité, parce que j'ai suivi, il a énuméré les espèces, mais il n'a pas cité combien sortes d'espèces d'animaux qui sera bien protégées et à quelles conditions qu'on peut les protéger. Pourquoi je dis ainsi? Parce que ici à Manono, il n'y a même pas les parcs, on n'a aucune limite, on ne connaît même pas l'importance de protéger les animaux. Donc c'était ça, merci et bonne continuité.
Merci Bernard d'avoir appelé du Manono Katanga. Sephorien, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour Sephorien.
Bonjour Marcel.
On vous écoute?
Oui, j'ai des questions. La première, est-ce que les poissons font partie aussi des espèces protégées? Parce que il y a vraiment, les poissons sont vraiment vendus là illicitement, il n'y a pas vraiment un contrôle à ce secteur. Et la deuxième question, qui sont habilités ou qui sont autorisés de vendre des espèces protégées? Parce que surtout notre pays, la RDC, est vraiment réduit par ce secteur. Même au niveau mondial, on parle toujours des espèces protégées qui sont vendues illicitement à la RDC. Merci.
Merci, Sophorian, depuis Kananga, au Kasaï occidental. Monsieur Mapilanga Jeff, on laisse d'abord cette préoccupation de Bernard qui a appelé de Manono. Il a cherché à savoir comment ces animaux sont-ils protégés. Il a parlé, par exemple, du cas de Manono. Est-ce qu'il y a aussi des aires protégées du côté de Manono, Katanga, parce que lui, il dit qu'il n'en trouve pas.
Je crois que c'est plutôt, je voudrais remercier l'auditeur, mais je le renverrai au niveau de la loi. La loi 002-082 est relative à la chasse. En fait, là-dedans, vous trouvez les espèces totalement protégées, ça c'est l'annexe 1, et l'annexe 2, donc les espèces partiellement protégées, et l'annexe 3, les espèces non protégées. Et que donc, il y a une série des espèces. Il y a de aussi bien des espèces végétales protégées et aussi des espèces animales. Donc ce que j'ai cité, c'est juste à titre indicatif. Il y a des oiseaux protégés, totalement protégés. Il y a également des poissons protégés. En ce qui concerne le deuxième volet, pourquoi on ne crée pas le parc dans la région de Manono, je crois que il serait intéressant que lui est comme amoureux ou je ne sais pas intéressé au milieu naturel, qu'il soit un impulseur ou un facilitateur, parce qu'il y a des réserves qui peuvent être créées à l'initiative des communautés locales, au cas où, en fait, les communautés, au niveau des institutions territoriales, trouvent l'intérêt d'ériger soit une réserve naturelle, ou bien une réserve communautaire, ou alors partiellement protégée, pour cibler des espèces à grand intérêt biologique.
Mais là, vous avez parlé des espèces partiellement protégées. Alors, comment vous faites au niveau de l'ICCN? Vous sensibilisez la population par rapport à cela, qui, voilà, des telles espèces sont totalement protégées. Là, ce sont des espèces partiellement protégées. Puis, voilà, là, c'est la catégorie d'espèces non protégées.
Également, effectivement, l'ICCN gère ce qu'on appelle les aires protégées, le réseau des aires protégées, mais également au niveau du ministère de l'Environnement, Développement Durable. Il y a une direction qui gère pratiquement les ressources biologiques ou les ressources naturelles, les ressources biologiques en dehors des aires protégées. Et qui donc, dans une synergie d'inter-services, inter-services, en fait, il y a des programmes de vulgarisation de cette loi. Cette loi, vous trouvez au journal officiel, vous allez trouver cette loi. Également dans le recueil des lois relatives aux aires protégées, vous allez trouver ça. Et au niveau de l'ICSN particulièrement, il y a des programmes au niveau des aires protégées qui s'occupent de l'éducation environnementale, dont la mission principale, c'est celle de faire comprendre, de faire connaître qu'est-ce qu'on peut protéger et qu'est-ce qu'on ne peut pas protéger. Les aires protégées sont subdivisées à différentes catégories. Je prends l'exemple des réserves ou domaines de chasse. Et ça, ce sont des aires protégées où, en fait, le prélèvement au profit des communautés locales dans le cadre de leur survie, parce que les communautés riveraines en dépendent, en tout cas, ils sont autorisés à prélever les animaux non protégés. Non protégés.
Pour avoir de répondre à la question des Séphoriens qui nous appelaient de Kadanga, au Castro Occidental, on va d'abord accueillir Jean Damboche qui nous appelait de Kolwezi, au Katanga. Jean Damboche, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Mais j'ai une préoccupation parce qu'aujourd'hui nous parlons des espèces qu'il faut protéger. Alors, la première question avant de passer à ma préoccupation, je voudrais savoir. Est-ce que l'hippopotame appartient aussi à la liste des animaux qu'il faut protéger? Si oui, lorsque cet animal affiche un comportement hostile envers la population générale, c'est comme ce qui se passe ici à Kolwezi, à peu près 30 km du centre-ville de Kolwezi, il y a un village où l'hippopotame est en train de tuer des gens. Donc le mois passé, cet hippopotame a tué presque 2 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Les gens sont en train de menacer à ce que ces hippopotames soient tués. Or, de la part des responsables ici sur place, on sent qu'il n'y a aucun effort fourni pour protéger ces hippopotames qui sont à la menace d'être tués par la population environnante. Alors, je voudrais demander à l'invité du jour, par exemple, quelles sont les précautions qu'on peut prendre afin qu'on puisse protéger ces espèces qui sont à la merci aujourd'hui de la population environnante. Voilà ma question.
Voilà, merci Jean Damboche, merci d'avoir appelé de Kolwezi au Katanga, Soupi Nyembo. Vous êtes à Kadima, au Maniema. Bonjour Soupi.
Bonjour Marcel, bonjour à tous. Je voulais demander au fait de notre invité la question de savoir, est-ce que, quels sont les risques, parce que nous, même pendant la ville et à la ville, que les bergers sont attachés avec les vaches et d'autres animaux. Et je vois souvent les insectes qui attachent ces animaux-là. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à ces bergers-là qui sont attachés avec ces animaux, donc la maladie qui attrape ces animaux-là ne peuvent pas attaquer ces bergers?
Voilà, merci à Soupi Nyembo d'avoir appelé de Kalima dans la province du Maniema. Voilà, on revient à vous, hein, monsieur Mapilanga, d'abord avec ces questions de Sephorien qui a cherché à savoir, est-ce qu'il y a aussi des poissons qui, certaines espèces de poissons qui font partie des espèces protégées?
Oui, je le confirme, il y a des espèces de poissons. Ce que j'ai cité, c'était juste à titre indicatif. Donc, il y a des oiseaux, des reptiles, des poissons, des mammifères, etc., qui sont totalement protégés. Je demande à nos collègues de se référer à l'ICSN. Pour ceux qui sont en Katanga, qu'ils arrivent à notre bureau de l'ICSN au niveau de la direction provinciale, ils peuvent avoir une documentation efficace ou appropriée pour connaître ce qu'on n'entend pas, espèce totalement protégée, partiellement et non protégée. Ou alors, à la rigueur, ils peuvent passer au niveau des services de l'environnement, disons du ministère de l'environnement au niveau provincial, la coordination au niveau provincial, soit au niveau des districts ou alors au niveau des territoires, ce sont les superviseurs de l'environnement.
Il a également posé la question de savoir est-ce qu'il y a une catégorie d'individus qui peuvent se permettre de vendre les espèces protégées.
Non, en fait, je l'ai dit tantôt, c'est que les espèces totalement ou partiellement protégées sont limitées. sont, disons, interdites au commerce. Et c'est comme ça que le Congo, la République démocratique du Congo, a adhéré à des conventions internationales pour, en fait, essayer un peu d'emboîter les pas à d'autres pays qui, en fait, vous ratifiez une convention, par exemple la convention sur les espèces menacées d'extinction, la qu'on appelle convention de Washington. Le Congo, la RDC, a adhéré à cette convention pour, justement, adhérer aux dispositions reconnues à matière du trafic ou du commerce des espèces protégées.
Voilà, il y a aussi Jean Dambouche qui a appelé l'écologie, qui a cherché à savoir d'abord si l'hippopotame est aussi un animal protégé et que faire lorsque, comme cela est arrivé, dans certains coins du pays, il y a l'hippopotame qui sème la terreur au sein de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est un animal protégé? Il faut tuer cet animal? Quelles sont les précautions qui peuvent être prises au niveau de l'ICCN pour éviter, lorsque il y a un hippopotame, par exemple, qui terrorise la population, de l'abattre?
Premier aspect de sa question, l'hippopotame est parmi les espèces listées sur comme espèces totalement protégées selon la loi nationale, totalement protégée. Est-ce qu'on peut l'abattre s'il écrase ou bien s'il charge les hommes? On doit privilégier d'abord la vie humaine. Donc l'ICCN a des mécanismes, tout comme aussi les services de l'environnement, il y a des mécanismes, en fait, réglementaires. Lorsque un animal comme celui-là, il divague ou bien il sort des limites d'une aire protégée ou bien d'une zone partiellement protégée comme une réserve ou domaine de chasse, il y a des mécanismes. Le mécanisme prévoit d'abord que vous puissiez dénoncer, vous puissiez aller au service le plus proche. S'il s'agit d'à côté de l'aire protégée, vous informez le chef du parc ou le chef de la réserve, conservateur, qui a fait dirigeante une équipe pour un constat avec les services spécialisés, une équipe mixte, pour dégager, en fait, les responsabilités de l'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a détruit les cultures? Et lorsqu'il a détruit les cultures, en tout cas, il y a toujours des mécanismes. Lorsque l'animal, lorsqu'il s'agit d'une fauve, lorsqu'il s'agit soit d'un hippopotame, au cas où la menace que l'espèce ou le spécimen présente est assez important en termes de la vie humaine, en tout cas, il y a une décision par la hiérarchie en abat qui recommande qu'on puisse abattre, parce que les animaux sont organisés, le chef ou bien le meneur du troupeau, en tout cas, il est abattu. Et après l'abattage, et il faudra adresser un procès-verbal qui, en fait, décline les circonstances dans lesquelles l'animal a été abattu, tout en privilégiant la vie des hommes et de leur bien. Il y a des mécanismes. Mais il ne faut pas, c'est qu'on évite, c'est justement les débordements. Mais aussi, un autre aspect, c'est que les gens font face à de tels incidents ou à tels ravages parce qu'il y a ce qu'on appelle les couloirs ou les migrations historiques des animaux. Les animaux ont des couloirs dans leur mouvement de vie. Et si vous allez installer une agglomération, une cité et un village dans un couloir traditionnel, mettez-vous en tête que tôt ou tard, les animaux pourront toujours vous déranger. C'est le cas, par exemple, ou alors les mouvements saisonniers liés à l'alimentation. Lorsque d'un côté les animaux sont poussés à un mouvement migratoire lié à la recherche de la nourriture, ou alors une forte pression ou une perturbation de son habitat par des autres facteurs externes, l'animal est obligé ou contraint de quitter son milieu pour aller maintenant, et là il sert à des agglomérations. Mais la solution passe par la dénonciation, les formations des services spécialisés, l'ICCN ou soit les superviseurs de territoire, et il y a des mécanismes pour arriver soit à abattre les meneurs, le chef de file, et parce que le comportement, l'écologie des animaux dans leur milieu naturel, faut en sorte que lorsque vous abattez le meneur, en tout cas, tout le reste du troupeau, en tout cas, peut se retirer.
Il faut absolument signaler les services de l'État, les services de l'environnement par exemple, et qui seront en contact avec l'UCSN et qui vont mettre des mécanismes qu'il faut, plutôt que les villageois ou bien les populations autochtones puissent eux-mêmes s'occuper de ces genres de choses, quoi. Donc si vous avez un hippopotame qui est en train de semer la terreur, il faut vite signaler les autorités compétentes qui vont prendre des dispositions par rapport à ça. Et il avait également ces questions des soupignums qui appelaient de Kalima, au Maniema. Certainement, il voulait faire allusion à ce que vous avez dit, il y a parfois des zoonoses, hein, des maladies qui peuvent se transmettre entre les animaux et les hommes. Et certainement, j'ai cherché à comprendre. Et c'est là qu'il y a des dispositions qui peuvent aussi être prises pour éviter cela.
Mmh. Exactement, je l'ai dit, c'est-à-dire les risques de manipulation de certaines espèces animales, plus particulièrement les primates, parce que les primates sont proches de les hommes. Ils développent certaines parasitoses.
Les primates, les gorilles.
C'est-à-dire, je parle des gorilles, les chimpanzés, etc., les petits singes. Oui. Ils développent certaines maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Et que donc la manipulation, comme par exemple la tuberculose, comme les vers intestinaux, etc., etc., ce sont là les risques. Et d'autres choses, c'est par rapport à l'éthique même. L'éthique de la conservation, l'animal vit dans son milieu naturel. C'est comme vous, un homme, vous vivez sur la terre ferme, mais on vous place dans l'eau. Quelle sera votre vie? Donc, laissez les animaux vivre dans leur milieu naturel. Donc, il s'agit d'une infraction lorsque vous soutirez un animal sans autorisation aucune, l'extraire de son milieu naturel pour le mettre en cage ou en captivité. Mais l'autre risque, c'est pratiquement ce risque de transmission de certaines maladies zoonoses de l'animal aux hommes.
Voilà, nous allons découvrir des réactions qui nous sont parvenues sur notre page Facebook. Tati vient de faire son entrée dans ce studio pour lire quelques-unes de ses réactions. Bonjour Tati.
Bonjour Martin Gombo, bonjour à tous. Il y a Richard Nganguet qui nous écrit depuis les Métis. Hein. Il dit qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour lutter contre les braconnages en RDC. Il y a Roland Niamousegué qui nous écrit au Sud Kivu à partir de Bukavu. Il dit l'État congolais doit faire donc ériger des moyens efficaces pour lutter contre le braconnage et faciliter aussi le tourisme dans ces aires protégées. Riva Bayekula qui dit qu'il faut mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre ces phénomènes parce que même des gardes forestiers sont aussi à la base du braconnage.
Voilà, merci Tati. On rappelle qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à ce sujet, mais on ne pourra pas le lire tout. En tout cas, merci d'avoir réagi sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, comment vous réagissez, monsieur Mapilanga, par rapport à ces réactions des amis qui ont réagi sur la page Facebook Okapi Service. On parle, il faut, en tout cas, au niveau de l'État congolais, de prendre des mesures efficaces pour lutter contre tout ce qu'il y a comme trafic et commerce des espèces protégées.
Effectivement, non seulement pas le trafic, mais il a parlé du braconnage. C'est un fléau pour le moment au niveau de l'Afrique centrale, parce que nous sommes les pays, c'est-à-dire la RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, etc., Cameroun, ce sont les pays de l'Afrique centrale qui détiennent encore des grandes populations d'éléphants. Et qui donc, pour le moment, de l'autre côté, il y a maintenant le marché de l'ivoire. Le marché de l'ivoire a grimpé considérablement. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, l'ivoire se négocie sur le marché clandestin à autour de $600. Donc vous sentez que la pression que nos éléphants au niveau des aires protégées,
le kilo
d'ivoire dans les marchés clandestins dans les villes ici à Kinshasa ou alors à l'intérieur, c'est un peu moins, légèrement moins. Et donc il s'agit d'un fléau qui est en Afrique centrale. Et en 2008, il y a des États de l'Afrique centrale, le Conseil des ministres des pays de l'Afrique centrale s'était réuni pour, en fait, dénoncer cela. Et ça s'est répercuté au niveau de chacun des États. En ce qui concerne la RDC, l'année passée, vous avez suivi l'atelier sur la valorisation des aires protégées qui s'était tenus ici sous les auspices du gouvernement, une des recommandations, c'était de lutter contre le braconnage parce que la garde de parc, les gardes, le personnel des gardes de Guissessène, ils sont confrontés à la puissance de feu qui dépasse pratiquement les capacités opérationnelles et que le gouvernement il s'est mis pour, en tout cas, dans une vision de revaloriser les aires protégées avec des mesures assez rigoureuses, notamment la formation du personnel des gardes, mais aussi des appuis en termes du matériel pour essayer un peu d'augmenter. D'autres aspects d'intervention, c'est pratiquement les interventions mixtes. Donc, dans les aires protégées où le personnel des gardes n'arrive pas à contrecarrer pratiquement le braconnage, on fait allusion, l'ICSN fait appel à l'armée pour des opérations mixtes. Et ça se passe dans nos aires protégées que je citerai par exemple au parc national de Kahuzi-Biega, au niveau de la Garamba, où il y a une forte force mixte de gardes de parc appuyée par les FRDC, au niveau de la Salonga. En fait, toutes ces aires protégées qui sont confrontées à d'énormes difficultés par rapport au braconnage suite au trafic des l'ivoire qui a grimpé pratiquement les caps. Il y a des efforts.
Voilà, merci beaucoup, il y a des efforts. On va s'arrêter par là. Merci beaucoup, monsieur Mapilanga Djaf. Nous rappelons que vous êtes directeur chef de département technique et scientifique à l'ICSN, Institut Congolais pour la conservation de la nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur le trafic qui commet des espèces protégées. À quel risque s'exposent ces opérateurs économiques? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci.